20h, 21h, Café des Artistes, le magazine de toute l'actualité culturelle avec Mourad Achour sur Beurre FM.
Bonsoir, je reçois ce soir jusqu'à 21h Patrick Adler, l'imitateur, comédien, chanteur, humoriste, chroniqueur, écrivain qui a fait sale compte pendant des années. Il a écrit récemment un livre...
Vous entendrez que je suis sale vide aujourd'hui, c'est affreux. Et...
Non, mais j'ai pas commencé mes questions. Hein.
Et quand vous dites qu'il a fait sale compte pendant des années qui aujourd'hui, évidemment, est dans la peine,
personne.
Comme Mallory Nataf, donc est dans la rue, et qui cherche désespérément.
Il a fait sale compte, allez, on va changer la phrase. Comme on est en direct, je ne peux pas couper et refaire. Donc pendant 30 ans à peu près, il a écrit récemment un livre, Un père et passe, un livre autobiographique où il accuse son père de l'avoir maltraité pendant son enfance. Il est aussi en tournée avec son spectacle Patrick Adler en voix du lourd. J'aime bien le jeu de mots. Un tour du monde en 80 voix. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus que 80. Bonsoir, merci.
Bonsoir.
Merci d'avoir intervenu comme ça.
Sur...
Ouais. Je dois rajouter.
Je suis toujours un peu coquin, donc évidemment, je titille.
Non, mais ça ne me dérange pas. Par contre, j'ai oublié. Je dois rajouter prof d'allemand pendant 9 ans.
Oui.
Et oui.
Beaucoup de suicides suite à ça. Et du coup.
Parce que oui, j'ai dit chroniqueur, imitateur, comédien, etc.
Ça veut dire que j'étais quand même sérieux 9 ans de.
Dans ta vie.
Mais ça, c'était avant.
Tu es donc imitateur, les gens te connaissent beaucoup par ce titre, plus que prof d'allemand. Parce que,
oui, évidemment, mais surtout par imitateur de voix de femme. Ça me gênait au départ, et puis un beau jour, Michel M. m'a dit mais attends. Au moins, tu as une identité. Parce que je dis, mais ça, c'est incroyable. Je dis, parce qu'imitateur de voix de femme, à chaque fois, quand je fais du cinéma, quand il m'est arrivé de faire des guests et tout, mm-hmm. Je demandais toujours de faire des rôles ou d'homosexuels ou de responsables de boîtes de travestis et tout ça. Je dis, mais pourquoi ? Il dit, mais c'est tellement génial qu'on fait de les femmes. Je dis, oui, mais ça, c'est la partie, artistique. J'ai pour le reste, non, l'ADN est formel, je suis un garçon. Sans contrefaçon.
Ah, Mylène Farmer. Justement, on te connaît en tant que comédien, chanteur, mais jamais moi j'avais imaginé que tu allais être écrivain et surtout que tu étais prisonnier d'un passé pareil. C'est ce cauchemar peut-être intime qui t'a poussé à faire tout ça après ?
Alors c'est ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire qu'on fait d'une faiblesse une force à l'arrivée. C'est-à-dire que l'histoire de la maltraitance a été plutôt une force pour moi. C'est-à-dire que j'ai le cuir assez tanné aujourd'hui pour affronter les épreuves de la vie. Et c'est vrai que, comme disait Françoise Dolto, tout se passe dans les trois premières années. Or, dans les trois premières années, j'étais couvert d'amour, un champ d'amour, parce que j'étais entre ma tante, ma grand-mère et ma mère. Et en fait, est arrivé à 3 ans et demi, donc après la guerre d'Algérie, de retour donc de la guerre d'Algérie, ce fameux géniteur, parce que je l'appelle le géniteur dans le livre, qui a tout bouleversé. Mais comme les trois premières années avaient été heureuses, j'étais quand même mu par, comment dirais-je, une forme de gaieté, de joie, d'appétence à la vie que j'ai gardée. Alors, il y a évidemment un parfum de nostalgie, il y a beaucoup de mélancolie chez moi, comme chez beaucoup de comiques. Hein. Je connais bien, par exemple, Benoît Poulvord, c'est pas quelqu'un de spécialement rigolo dans la vie, mais qui, en revanche, sur scène, fait hurler de rire les foules. Et moi, c'est pareil. Je veux dire, ça a été une façon pour moi de me faire accepter, de me faire aimer, que de faire rire. Et donc, j'ai été rapidement, entre guillemets, populaire en classe, et puis après populaire dans les médias.
Finalement, donc, ton enfance n'a pas été un long fleuve.
Finalement,
tranquille.
J'ai bien fait de me faire tabasser.
Voilà. Et... Non, je disais, finalement, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Ceci dit, le livre est traité sur un mode burlesque, c'est-à-dire, il y a un aller-retour. Hein.
Même oui, c'est-à-dire que, par exemple, je dis, mon père a été incinéré, le lendemain, j'ai arrêté la clope. Et donc voilà, je veux dire, c'est ma manière à moi, je veux dire, de prendre des distances par rapport à une douleur. Et je n'ai pas envie de faire pleurer Margot dans les chaumières.
Mais justement, quand tu es revenu sur un épisode dramatique qui a bouleversé plutôt l'équilibre de ton enfance, évoquer comme ça la violence de ton père, pourquoi aujourd'hui ?
Parce que d'abord, j'attendais qu'il ferma les yeux, première chose. Et puis à un moment, je me suis dit qu'à l'approche de la soixantaine, peut-être que je pouvais maintenant coucher sur le papier que ces quelques lignes.
C'était douloureux.
Faire appel à la mémoire. Parler de soi, c'est toujours une manière d'obscénité. C'est jamais gratuit, c'est jamais simple. Se pose également la question de savoir si ça va intéresser et qui ça va intéresser. Mais bon, c'est vrai que je ne suis pas le seul à en parler.
Tu l'as fait
parlé.
Pour toi d'abord.
J'ai fait pour moi, c'est une forme de catharsis évidemment. Mm-hmm. Mais après, effectivement, il y a Thierry Beccaro qui en a parlé. La preuve, c'est que de son livre, ils vont en faire un téléfilm. Parce que c'est la même douleur quand il raconte que sa vie a démarré à 17 ans. C'est qu'avant, c'était dur à vivre et tout. Moi, je pense que c'est à partir de ces fêlures, de ces fractures, de l'enfance que on se construit différemment.
Tout est lié
différemment,
finalement.
Mais tout est forcément lié. Par exemple, je n'ai pas fait d'enfant. J'ai été qu'avec des femmes qui avaient des enfants, mais moi, je n'ai pas voulu en avoir pour ne pas, j'allais dire, reproduire
le même schéma.
Donc, j'ai été... Bon, là, la question maintenant ne se pose même plus, mais
ce que je tu devenais artiste. Même...
Oui, ce qui est une forme d'évasion. Et il y a eu aussi une chose, c'est que je suis d'une grande stabilité, parce que je suis extrêmement cadré, comme tout bon ex-prof d'allemand, mais je suis extrêmement instable dans l'espace. J'en suis à mon 10e déménagement en 30 ans, et je suis quelqu'un qui ne tient pas en place.
C'est beaucoup,
30
ans c'est...
Oui, tous les 3 ans, je déménage parce que je me lasse, parce que j'ai besoin de changer d'air, mais à Paris, par exemple, j'ai déménagé 7 fois, et depuis que je suis en province, puis j'ai déjà déménagé 3 fois en... Oui, là, ça fait 3 fois en 3 ans.
Est-ce que tu as toujours été attiré par les feux de la rampe?
Les feux de la rampe,
qui t'a fait monter sur scène la première fois?
Alors, en fait, j'ai vu un nul passer chez Drucker, d'ailleurs, qui n'est plus jamais repassé, dont on n'a plus jamais entendu parler ensuite. Et je me suis dit, si lui, pourquoi pas moi? J'étais alors professeur d'allemand, j'ai envoyé une bafouille qui l'a fait plutôt rigoler. Il a écouté la cassette, parce que je vous parle d'un temps, évidemment, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. À l'époque, c'était des cassettes. Il a écouté la cassette, il a trouvé cela formidable. Un type qui s'était engouffré dans la brèche des voix féminines. Et il m'a appelé, j'ai cru que c'était une grosse blague, donc je n'ai pas répondu. Puis au deuxième appel, j'ai appelé, ça s'appelait DMD Productions. Et là, on m'a passé Michel Drucker, j'étais dans tous mes états. On m'a dit, on va vous... envoyer des photos, on va vous faire passer le 14 février 89. Alors, il y allait y avoir Véronique Sanson, Vanessa Paradis, la troupe de chez Michou, le groupe Gamine, etc. Et puis vous serez en fil rouge. Et je ne le croyais pas, je pensais que c'était une énorme blague. Et je suis venu aux répétitions et tout, où j'étais évidemment à faune, parce que évidemment il y avait un côté psychosomatique. Comme par hasard, j'avais plus de voix. Puis dès que je suis arrivé sur scène, la voix est réapparue. Ça a été compliqué pour moi la fin de l'année scolaire, parce que j'avais quand même 4 classes de terminale, une seconde, une première. Autant les secondes et les premières me voyaient comme une star que les terminales ironisaient sur. Parce qu'évidemment, ils m'ont toujours vu en petit Goebbels, c'est-à-dire en prof assez exigeant et dur, et un peu caustique. Et là, tout à coup, il me voyait faire le zinzin à la télé. Je dis, c'est pas possible, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Et on ne savait pas qu'il avait deux, voilà, on avait deux côtés et tout. Mais et après Drucker, donc je devais passer le CAPES l'année d'après, donc préparer le CAPES, et je me suis mis en disponibilité, et ça fait 30 ans pile cette année que ça... Voilà, 14 février...
Que la parenthèse n'a jamais été fermée.
Bah, oui.
Mais c'est drôle, tu as des souvenirs très précis de ces moments-là.
Ce sont des éléments marquants.
C'est fait un déclic,
Michel
Drucker.
C'était un déclic, et c'est
quoi,
surtout... Champs-Élysées. Ouais. Et ça a été un déclic parce que du jour au lendemain, eh ben voilà, ça, je n'imaginais pas. Et je me rappelle, parce que moi qui étais assez construit, assez cadré, j'avais mes copies à corriger, mes cours à préparer, tout ça. Tout à coup, je me retrouvais à faire des enregistrements certains jeudis, certains vendredis. Je gagnais très bien ma vie. J'étais au point virgule où je faisais ça le comble. Il y avait des listes d'attente pour le week-end et tout. Et je gagnais 5, 6 fois, 8 fois de ma vie de prof. Et en travaillant, je travaillais beaucoup à l'écriture. J'avais 7-8 jours.
C'était 7, plus un plaisir.
Non, mais c'est pas ça, c'était 7-8 jours de travail, alors que moi je travaillais 25 jours sur 30, quoi. Et ça me faisait bizarre. Donc j'allais au Collège de France, j'allais en fac voir des copains profs. Ils me disaient, mais ça va? Je m'emmerde un peu. Ça me paraît bizarre, ce métier dans lequel on gagne beaucoup d'argent. On est reconnu dans la rue. Quand tu prends le métro, t'as des gens qui vous sourient. Mais c'était, je trouvais ça très, très sympathique. Après, je m'y suis fait. Très, très vite.
Et après,
mais la première année, c'est vrai que ça a été compliqué.
Ouais, et tu t'es dit, je veux faire ça, ça t'a jamais quitté.
Non, et puis je regrette rien. Ouais. Même si les dernières années sont plus compliquées. Bon, déjà par les épisodes des Gilets jaunes, cette année, nous avons subi beaucoup, beaucoup de chutes. À cause, effectivement, parce qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas essayer les choses le samedi soir en disant, vous savez, c'est pas sûr, enfin bref et tout.
Moi, je continue de sortir.
Mais, oui, mais bon, c'est... Enfin, en tout cas, il y a une baisse de l'activité.
D'une façon générale.
D'une façon générale. Il y a, bon, comme on est moins vu en télévision, moins entendu en radio. Donc, effectivement, il y a une baisse. Mais bon, je vais pas me plaindre.
Patrick Adler.
30 ans de carrière, écoutez, je n'imaginais pas que j'aurais pu aller jusque.
Et c'est ça le plus intéressant, parce que la durée aujourd'hui, c'est très dur pour certains artistes de durer dans
perdurer,
le temps.
Ouais,
perdurer, durer dans le temps. On va écouter, justement, on va revenir sur l'imitation, parce que moi, c'est ce que j'adore chez toi, donc ce côté comédien, il faut le faire. Je ne sais pas comment tu le fais, mais tu le fais. On va écouter quelques voix de toi, évidemment.
Il y aura et vous allez évidemment choisir des voix féminines, Tina Turner, Amy Winehouse, Véronique Sanson. Il y a plein de choses, et en même temps, les gens me disent, oui, mais j'ai quand même 10 ans de lyrique derrière. C'est-à-dire que j'ai fait 10 ans de chant lyrique avec un professeur qui était maître des chœurs à l'Opéra de Paris. C'est ce qui m'a permis de tenir sur des spectacles d'une heure 30, 1h40. Parce que s'il n'y a pas... C'est un peu comme un danseur. Si vous n'avez pas fait vos bars, eh bien, vous n'arrivez pas à tenir
Ah ben voilà,
la
c'est
rampe.
Bien dit. Je reviens pour savoir comment, parce que c'est juste pas croyable. Écoutez, tendez l'oreille, vous allez croire que c'est vraiment Véronique Sanson ou d'autres.
Mi Buena Us,
voilà, ou d'autres artistes, parce que je sais pas on va choisir avec Fatma Zahra. On écoute Patrick Adler qui est avec nous jusqu'à 21h sur Beurre FM.
Bonsoir, t'as juste un quart d'heure de retard, c'est pas grave. Et la petite qui est venue en pyjama, là, c'est bien. Elle est bien. Ça y est, elle a trouvé son portable, on s'est mal barré là. Allez, baisse-toi. J'ai pas envie de fermer ma gueule. Si ce soir j'ai envie de me casser la voix. Casser la voix. Je fais ce que je veux. Si j'ai envie de l'appeler Franck, je l'appellerai Franck.
Bah, si il répond pas, c'est normal.
Tais-toi, Sous-Hélène, tu es ivre. Excusez-moi, madame. De toute façon, je vois pas, je m'en fous.
Oh, mais patron, tu es encore au lit. T'es encore en dormi. Ah, pas mais oui, ça, tu me l'as déjà dit.
C'est un monde épouvante. Et le pire, c'est ma vie. Car même la nuit, elle chante. On n'a plus de voisins ici.
Je sais pas si vous avez vu. On verrait ça tout à l'heure avec Carla Brunet. Je sais pas si vous avez vu, mais tous les mannequins, comme on leur a demandé de ne pas sourire, ils ont toujours ce petit rictus. On dirait qu'elle blatère. Un peu comme les dromadaires. J'adore Michou. J'adore dans le 18e, c'est un véritable personnage. On pense qu'il a commencé au bouchon. C'est normal qu'il finisse sur le cul d'une bouteille. Et en cul de bouteille, il peut être monté en lampe.
Personne ne veut de vous, c'est effrayant. Chaque semaine, j'essaie de vous trouver une femme, un homme, un singe, un truc, rien. C'est marrant, les hommes. Est-ce votre odeur, non? Vous êtes répulsif, non? Non, bah, en plus, attendez, les sapeurs-pompiers, là, c'est nickel, c'est le poil est dru, le poil est soigné, là, c'est élevé au grain en plein air, c'est magique, ça, c'est...
Oh là là, bébé!
Je fais des fécondes, tout fine. So follow me, just follow me.
C'est ma vie, moi je la vis, mon paradis, où est
où mes amants? Je les ai mangés, c'est une question d'habitude. Tous mes amants, je les ai goûtés avec la même gratitude. Mais il m'a his ride. Get on with that, my guy. You went through with what we knew. Safari mode, and everything's gone through. Now, to quit the fun, il faut plus te bourrer comme ça. Déjà quand t'es né, quand t'es mal nommé. À cause de ta mère qui l'aimait, qui de la télé, qui s'appelait Jean-Claude, Jean-Claude Bourré. Mais si toi t'es bourré, tu seras santé. Never quit my.
C'est saoulé avant de venir. Non? Alors, c'est... On prend du retard, hein? J'en ai fait aussi long. Il n'en peut plus. Elle croise tes bras si ça te fait plaisir. Tu te gratter, il est là depuis tout à l'heure. On croit où, au Pélé Castagnette, là?
Vous avez vu, chaque après-midi, dans le bois, il y a des femmes avec leur sac à main. Je sais pas ce qu'elles peuvent faire comme cueillette, hein. En tout cas, ça peut pas être des verrailles ni des myrtilles. C'est pas la saison.
Ce soir, j'étais simplement venu pour vous le dire. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous!
Mesdames et messieurs, sous les applaudissements, monsieur Patrick Hamel.
Café des artistes.
On revient dans un instant.
20h, 21h, Café des artistes, le magazine de toute l'actualité culturelle avec Mourad Achour sur Beurre FM.
Patrick Adler avec nous jusqu'à 21h, c'est un privilège de l'avoir ce soir.
Un privilège pour moi que d'être reçu.
Oh mon Dieu.
Je connais un très bon ami, Adil Farkat, qui est un journaliste formidable qui est sur Beurre FM aussi.
Il est très tôt le matin.
Oui, mais je sais.
Ouais, il est très tôt le matin.
Vous êtes plutôt.
Je le croise rarement, mais je le croise. Je l'aime beaucoup parce qu'il est.
Il a beaucoup de classe.
Ouais, il a beaucoup de classe, mais
d'élégance.
Il n'est pas du tout sérieux par rapport à la radio.
Oui.
En dehors, il est très très rigolo. Alors là, il va me tuer. Adil, je t'embrasse.
L'embrasserai pour moi. Hein.
Voilà, on l'embrasse carrément en direct. Patrick Adler, justement, on a écouté plusieurs voix féminines, et ça, c'est extrait de ton dernier spectacle, parce que ça en a fait plus.
Adler en voix, trois petits points, du lourd. Alors du lourd, c'est une expression qui avait été trouvée par l'affichiste qui m'avait dit, oh, écoutez, comme vous balancez quand même et que vous êtes un peu cash, mais je suis perdu. J'ai dit, ah tiens, c'est marrant. J'avais très peur au départ que ça, c'est un côté un peu bigardesque, quoi. Ouais. Mais puis finalement, je m'y suis fait.
C'est beau, moi je trouve. Patrick Adler en voix, du lourd.
Oui, parce qu'en voix, ça aurait pu être l'affaire d'un performeur. Ouais. C'est pas que performeur, parce qu'en fait, il y a beaucoup de vacherie et je dirais de fiel un peu à la Gérard. Il y a de la performance à la manière d'un Grégorio. Et puis, il y a surtout ma marque de fabrique, qui est l'interactivité avec le public. Quelqu'un se racle la gorge, quelqu'un se gratte le nez, etc. Je fais 2 minutes là-dessus et tout. Et ça fait... Les gens se sentent concernés.
J'ai très envie
de partager en fait le spectacle. Pourquoi j'ai fait ça?
C'est interactif.
J'ai besoin de passer le témoin, en tout cas d'avoir un partage avec le public. Je ne peux pas faire un spectacle ex-cathédra, c'est-à-dire du haut de ma chair, etc. Et de dispenser des voix comme un catalogue.
Et justement, pour la tournée, puisque Patrick Adler est en tournée dans toute la France, vous pouvez aller sur patrickadler.com.
Mais il y a surtout deux dates très importantes.
Lesquelles, pour moi,
qui sont le coup de chapeau, parce que c'est une date que je refais, parce qu'ils ont eu le plaisir, vu qu'on avait très bien rempli la première fois, de repasser au coup de chapeau. C'est au Cannet, c'est à côté de Cannes, tout simplement. Mm-hmm. Donc ça, c'est formidable. C'est le 2 novembre. Et puis évidemment, le 29 novembre, c'est presque comme un showcase. C'est à la salle Le Palombo. C'est à Toulouse-Saint-Jean, qui est vraiment c'est un peu l'équivalent de Montreuil pour Paris. Toulouse-Saint-Jean, et c'est le 29 novembre. Et ça, je vous attends nombreux, parce que la salle est quand même elle fait quand même 270 places. Donc, nous espérons avoir beaucoup de monde pour cette soirée.
Allez, je salue les auditeurs qui nous écoutent depuis Toulouse. Ouais. Toi, tu as la fréquence en face. Moi, il faut
96.9.
Voilà, on les salue. À quel moment s'opère le choix de l'imitation? Parce que qui tu
en fait, disais... ça c'est même pas un choix. Je veux dire, c'est arrivé, c'est un petit peu comme un ventriloque. Je veux dire, c'est arrivé en
Parce
moi.
Quand j'étais petit, j'ai trouvé.
Ah, j'ai commencé très tard, mais j'ai commencé très tôt en fait dans la vie, parce que j'imitais les profs, j'imitais les déjà des comédiens, des comédiennes quand j'étais mou. Je me rappelle.
Tu es vraiment fait pour l'imitation. Pas...
Ah oui, c'est un peu comme les gens qui disent on est machin. Moi, j'ai l'impression que je suis né pour faire rire, même si dans une partie de ma vie j'ai été j'ai fait un travail sérieux. Quoi.
Et la scène, la télévision, la radio, tu as fait tout cela. Est-ce que tu, à un moment donné de ta vie, tu as imaginé tout ça? Que ah t'allais. Non.
Alors, je pense que les autres l'ont imaginé pour moi, parce que j'avais un copain qui est un grand batteur, c'était le batteur de Johnny, de France Gall et de Berger, qui s'appelle Claude Salmieri. J'étais en cours avec sa femme en cinquième, il me dit, mais pour nous, c'était. Il était déjà avec sa petite copine, elle, de l'époque, qui est devenue après sa femme. Et il me disait, mais pour nous, c'était une évidence que tu allais faire de la scène. C'était clair. Quand on a vu que tu étais prof, bon, ouais, mais enfin, la prof en finance, c'est une petite estrade. Et puis après, on est passé de la petite estrade à la grande scène. Mais pour eux, il y avait une évidence. En fait, ce sont plutôt les autres qui m'ont projeté dans cette voie-là que moi. Bon, je n'étais pas très certain de. J'avais bien envie, puisque de toute façon, parallèlement à mes activités de prof, j'étais animateur dans les discothèques et tout. Je faisais des présentations, je faisais beaucoup de choses, mais je ne pensais pas du tout que j'en ferais un jour un métier.
Parce que bah, aujourd'hui, c'est ton métier. Puis...
Ah, c'est mon et métier puis, depuis 30 ans. Ouais, et je prends ma retraite en juillet, mais enfin, évidemment, je prends ma retraite, mais.
Quand on est artiste, on prend une retraite.
Oui, enfin, on prend. On prend la retraite. Pour autant, je n'arrête pas de travailler. Ah mais bah ça, voilà. Ça me fait rire parce que l'autre jour, j'ai vu que j'avais largement mon nombre de trimestres et tout. Et j'ai dit, mais ça se passe comment? Puis j'ai regardé ce qui se passait. J'ai dit, oh là là, on va arrêter de courir le cachet. On va prendre, parce qu'évidemment, c'est moins qu'avant. Donc du coup j'ai dit, ah bah tiens, je vais prendre ma retraite. Mais évidemment, je pense que d'abord, je vais écrire des bouquins. Puis je vais surtout continuer un truc. Et d'ailleurs, à ce sujet, je profite d'être à votre antenne pour dire, à votre antenne, c'est-à-dire que je recherche évidemment un manager producteur ou tourneur, en tout cas au moins.
Un tourneur pour Patrick Adler.
Oui, c'est ça. C'est important vrai. Parce que pour l'instant, j'ai quelqu'un qui est un ami fidèle et qui est surtout un... pour avoir énormément travaillé avec Anne Romanoff, qui me donne un très grand coup de main, qui je remercie tous les jours d'être présent, c'est Christophe Cochard. Et après, effectivement, j'aimerais bien que nous nous inscrivions, lui comme moi, dans une équipe de production qui fasse que ça redémarre différemment qu'avant, parce que effectivement, à 62 ans, on ne peut pas demander non plus d'avoir la même, je dirais, la même énergie, mais pour autant, c'est très important, parce que d'abord, ce n'est pas mon boulot que de me vendre. Effectivement, on m'appelle et tout, et je transfère sur d'autres réseaux, mais c'est vrai que c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'un jour, quand on s'est vu avec Christophe, je lui ai dit, bon, c'est pas du tout mon truc que d'aller me vendre, je suis incapable de parler de moi, c'est que ça devient séparé de cette manière de...
Tu as ce côté, déjà on le voit sur scène, ce côté nostalgique, voire, excuse-moi, mélancolique. Je sais pas si tu as toujours été comme ça, mais en même temps, tu disais tout à l'heure, quand on est artiste, la chose dans le public ne voit pas, c'est qu'on n'est pas forcément...
Ah non, de toute façon, mon frère est décédé le soir même, j'étais sur scène, j'étais au point virgule. Mon père est décédé le soir même, j'étais sur scène. Je veux dire que la vie continue. Moi, je considère, et d'ailleurs, j'ose espérer que le jour où je partirai, ce ne sera pas des pleurs et des propos énamourés. Je veux dire, bon, c'est très gentil, mais je veux dire, bon, la vie continue. Je veux dire, moi, je suis un éternel optimiste. Et voilà, puis on sait très bien que nous ne sommes que de passage. Donc, je fais ce qu'il y a à faire, histoire de ne pas perdre de temps et de ne pas faire perdre de temps. Et surtout de m'amuser beaucoup, parce que ma vie, c'est quand même,
t'as raison,
c'est quand même le plaisir.
Qu'est-ce qui te manque le plus dans ce passé?
Parce que l'amour, mais ça, on en reparlera après. Mais ça, parce que c'est un petit peu compliqué, je veux dire, de suivre un type comme moi qui marche à 100 à l'heure et qui n'est pas toujours à la maison. Donc, ça, c'est clair que je... Moi, je suis toujours, d'ailleurs, la preuve, vous voyez, je suis à Paris, mais j'habite à Avignon. J'habite au Bled aussi, puisque j'ai une maison en Tunisie que je suis en train d'essayer de vendre. À Darchems de Madia, à Madia, justement, qui est une ville que j'adore, mais je vais prendre une plus petite maison, parce que celle-là est devenue très grande pour moi, trop grande pour moi. Mais non, je suis toujours entre trois lieux de vie. J'aime éperdument la Tunisie, qui est ma seconde patrie. Pourtant, je n'ai rien de tunisien. Je suis breton. Et j'aime Paris infiniment parce que j'y suis né et puis que j'ai fait toute ma carrière et ma vie ici. Et puis j'aime la province. Et je pense que, effectivement, dans quelques années, je repartirai en Bretagne parce que je suis d'origine bretonne et que, comme disait ma mère, on appartient tous à un lieu. Et je pense que je ferai. Et je pense qu'effectivement, je suis pas un homme du Sud et je suis en revanche, par contre, un homme de l'étranger. Moi, je me verrais bien dans n'importe quel.
Mais tu es déjà en Tunisie.
Mais je suis déjà en Tunisie ici.
Voilà. Dis-moi, Patrick Adler, on dit que ce spectacle, tu envoies du lourd. Tu dis c'est 80 voix. Tu fais que 80 voix.
Non, c'est quand on fait 20 voix, on fait 40. Quand on fait 40, on fait 100. Quand on fait 100, on fait 200.
Tu maîtrises combien
des voix,
actuellement
je sais pas. Actuellement, je pense que j'irai entre 80 et 100. Mais de toute façon, il y a des voix qui ont été abandonnées. Je pense par exemple Angelo Brando Hardy. Enfin, des gens qui n'ont. Je faisais à l'époque Niagara, tout ces trucs-là. Donc des gens qu'on entend moins aujourd'hui. Donc c'est des voix qui.
Tu travailles de nouvelles voix.
Oui, je vais travailler Vianney. J'ai travaillé De Pretto. Je vais
travailler Vianney carrément.
Oui, j'ai travaillé Vianney.
Ça donne quoi Vianney?
Je vais le travailler. Ça fait partie des choses qu'il faut que
c'est
je
le chouchou
fasse
des jeunes,
mais c'est... Oui, mais en même temps, j'ai pas envie de faire du jeunisme, c'est-à-dire qu'à 62 ans, un jour j'avais vu Leb faire un rappeur et j'ai trouvé ça juste grotesque à 70 ans.
Non.
Alors c'était un clin d'œil, mais ça fait rire les yeux, mais enfin je pense que les jeunes quand ils ont vu ça, ils ont dû dire pour
tu fais quoi dans la nouvelle scène?
Dans la nouvelle scène, je dis justement, je vais faire.
Tu vas faire. Ah, tu ne
ah oui,
fais
je vais
pas.
Faire. Non, je suis.
Tu fais les classiques.
Je fais les classiques. Non, parce que je fais pas d'hommes politiques, par exemple. Je fais des comédiens, des comédiennes. Je fais des chanteurs et des chanteuses. Je suis surtout spécialisé dans les chanteurs et les chanteuses. Je fais Kim Carnes, Tina Turner, Amy Winehouse. Alors celle que je préfère, celle que je fais en dernier, c'est Amy Winehouse. Effectivement, j'ai découvert ça un jour et puis je fais aussi Bibi, donc ça. Je fais Nina Simone. Je fais des tas de trucs. Je fais beaucoup dans l'international, mais je fais aussi des voix cassées. C'est un peu ma marque, là, les voix cassées. Maria Pacoum, Benoît Poulevard, mon gamin, je suis tellement Jean. Ben. Ouais, donc il y a plein de choses qui viennent de la gorge, comme par exemple Stéphane Cher. Et il y a plein de voix qui sont cassées. Par exemple, les Italiens, je les fais très bien. Umberto Tozzi, Richard Cocciante, Andrea Bocelli, Zucchero. Tout ça, je fais parce que c'est... pareil, Kim Carnes, c'est des voix cassées. Bonnie Tyler, c'est des voix cassées. Tina Turner, c'est des voix cassées. C'est un peu ma partie. J'ai travaillé sur Lana Del Rey parce que ça m'a beaucoup amusé, cette voix grave chez une femme. Je l'avais fait déjà sur Amanda Lear, enfin, si tant est que... c'est un produit dérivé plus entre hommes et femmes et donc de toute façon ça l'amuse quand je parle de ça, c'est une vieille
je
copine,
enfin, je surtout, m'attendais pas à cette blague.
Surtout une vieille et donc elle entend évidemment ce que je dis puisqu'elle me dit et ça continue. On n'arrête pas une machine qui marche.
Oui, la pauvre. On la salue. Je ne sais pas si elle écoute bien. Et... C'était qui ta première voix?
Alors, je crois que ma première voix, enfin celle qui m'a rendue entre guillemets célèbre, c'était Maria Pacoum. Parce qu'effectivement, avant, je faisais pieds plus. Puis un jour, j'ai un copain qui m'a dit, mais c'est con parce que si tu la ténorisais un peu, si tu la mettais un peu plus claire, tu fais pieds plus, mais tu pourrais faire Maria Pacoum. Mais un jour, je l'ai fait et j'ai regardé Le Noir te va si bien. Puis j'ai fait. Et les gens me disent, mais c'est. Alors donc, sur les marchés, les gens m'appelaient Maria ou alors m'appelaient Zazette avec. Eh ben voilà, c'est tôt la police. Bravo la police. Ça, effectivement, pendant des années, j'ai traîné un caddie. Avec des fausses dents chez Sébastien et puis ailleurs dans toutes les émissions. Quand il y avait un creux, on disait, tiens, on va foutre un coup de Zazette. J'étais un petit peu le Madame Sarfati de Kakou, quoi. Et mais bon, c'est un personnage qui m'a poursuivi. C'est comme les vampires. Oh, bah oui, Gisèle. Ce sont des personnages qui sont plaisants parce qu'ils sont caricaturaux.
Ouais, et ça déjà dès le départ.
Mais dès le départ, et j'aimais ça. En revanche, je n'aime pas le travestissement. J'ai commencé par des perruques et tout dans les premiers spectacles. Et maintenant, je fais tout. À main nue, je veux dire, et à voix nue. Donc, je n'aime pas du tout les artifices. Je trouve que quand on a un talent vocal, on n'a pas besoin de mettre des perruques pour faire.
Mais ça plaît
des
toujours. Fois,
ça
fait...
Alors, ça plaît toujours quand. Oui, mais à ce moment-là, il faut que la scénographie.
Parce que certains, moi,
Non, mais par exemple, Gérard, quand la scénographie suit. Quand on fait des petites salles, c'est beaucoup plus compliqué. Sur des horaires définis de 1h10, 1h15, 1h20, c'est compliqué. Quand vous avez une scénographie sur une grande scène, etc., vous avez des lumières, vous avez le temps, vous avez des accessoiristes et tout, là, vous pouvez faire ça. C'est ce que faisait Gérard quand il poussait un caddie avec des enfants congelés de Céline Dion. Ça, c'est ça, ils pouvaient faire ça parce qu'ils pouvaient se permettre parce qu'il y avait l'orchestre qui jouait, ou son pianiste et tout ça. Il y avait des. Mais là, quand on est seul sur scène, face à 80 voix et face à un public, genre, on n'a pas le temps. Moi, je suis un adepte du non temps mort. C'est que il faut qu'il se passe toujours quelque chose. J'ai pas de temps à perdre. Le public n'a pas de temps à perdre. Et même si les silences sont parfois, c'est très rythmé. Ça, c'est vrai que mon spectacle là-dessus, on pourra pas me, dire, c'est sur le rythme. D'ailleurs, je ressors en eau, ce qui me fait pas de mal, vu que j'ai arrêté la clope et que j'ai pris 6 kilos. Donc, c'est toujours bien. Mais, je veux dire par là que c'est très, très rythmé. Parce que moi, je suis là pour rire, partager et tout. Et quand je rentre, effectivement, je suis crevé, je prends une douche et un suppôt et au lit. C'est une image. Et donc, bien sûr.
Je n'ai pas relevé. J'ai rien entendu. Tu maîtrises plusieurs fois, une centaine, et une voix que tu n'arrives pas.
Les voix graves, parce que je suis plutôt un.
Parce que tu as envie, que surtout.
Plutôt un ténor. Oh ben j'aurais aimé faire des voix comme Jean Ferrat ou des voix comme Grand Corps Malade. C'est impossible pour moi.
Véronique Sanson, c'est ça.
You got it all. Oui, c'est plus simple parce que, et en plus à ça, j'ai une espèce d'histoire d'amour avec les chanteurs et les chanteuses que j'imite parce que très souvent, enfin, les gens s'en rendent pas bien compte, mais il faut vraiment que je les aime pour les imiter. Sinon, j'ai pas, mais par exemple, vous parlez des voix, j'aurais adoré faire Maître Gims, j'ai pas la voix, c'est pas possible. Je l'avais essayé sur une, je sais pas, une parodie qui était un peu baroque et, j'ai vu que c'est. On me disait à la fin du spectacle. Vous savez, quand il y a une voix qui est mauvaise, les gens reconnaissent la voix mauvaise. Ils disaient, c'est génial, mais toutes les voix sont extraordinaires. Maître Gims, par contre. Voilà. Et donc, j'ai très, très vite eu l'intelligence de la stopper, quoi.
C'est bien.
C'est comme faire des voix que tout le monde fait. Chirac, enfin, Feu Chirac, ou comment dirais-je, ou les hommes politiques. Tout le monde les fait.
Tu les fais très bien. Tu les fais pas.
Non, parce que mes camarades, mes collègues le font tellement bien que qu'est-ce que je vais apporter de plus?
Ben rien. C'est juste, on va écouter, je t'ai parlé de Véronique Sanson, on va écouter un petit extrait de Amoureuse. Et tu le fais sur scène.
Ouais.
Et ben voilà, Patrick Adler est avec nous encore pour quelques instants. Il nous présente un peu ce qu'il sait faire. Il est en tournée, donc pour les dates, tu parlais.
J'ai parlé du 2 novembre au Canet, au Coup de Chapeau, et le 29 novembre à Toulouse-Saint-Jean. C'est la banlieue de Toulouse, enfin, c'est vraiment limitrophe, on dirait presque une conurbation. Comment dirais-je, et c'est à la salle Palambo, et c'est à 20h30, pardon.
Ben voilà, et toutes les autres dates sur le site patrickadler.com. On écoute un petit peu de Véronique Sanson sur Beurre FM.
Une nuit, je m'endors avec lui. Mais je sais. On nous l'interdit. Et je sens la fièvre qui me mord. Sans que j'aie l'ombre d'un remords. Et l'aurore m'apporte le sommeil. Je ne veux pas qu'arrive le soleil. Quand je prends sa tête entre mes mains, je vous jure que j'ai du chagrin. Et je me demande si cet amour. Dans sa vie, je prie pour que le destin m'en sorte. Je prie. à parler son langage. Mais quand je prends sa tête entre mes mains, je vous jure que j'ai de chagrin. Et je me demande si cet amour aura un lendemain quand je suis loin.
Café des artistes.
Reviens dans un instant.
20h, 21h, Café des artistes, le magazine de toute l'actualité culturelle avec Mourad Achour sur Beurre FM.
La playlist de Patrick Adler, c'était Véronique Sanson. Et puis, si je t'avais demandé la vraie playlist, t'aurais pour 2h, 3h, 4h.
Parce qu'il y a beaucoup de classiques et tout. Il y a Barbara, évidemment, parce que c'est quand même ma
tu le fais, Barbara.
Je termine tous mes spectacles par Barbara.
Mon histoire d'amour,
c'est vous.
Ah oui. C'est...
Mais comme nous sommes sur Beurre FM, j'ai choisi Amina, parce que je suis très amoureux d'Amina. J'avais vu à l'Eurovision et vraiment, j'étais tombé sous le charme de... D'abord, je trouve qu'elle a une sensualité et puis elle a une très jolie voix.
Tu fais Amina?
Non, je ne fais pas Amina.
Amina, elle a une voix un peu...
Elle a une voix poitrinaire,
ouais.
C'est le cas de le dire. Et elle a, comme on dit, il y a du retour dans les jardinières.
Tu es sur la scène depuis 30 ans avec combien, tu as fait combien de spectacles?
Je pense que j'en suis à 10, plus 3 pièces de théâtre, plus quelques guests dans des téléfilms et films. Non, j'ai joué, et puis surtout j'ai fait...
Chroniqueur à la télé, à la radio,
France Inter évidemment, sur La Classe, après il y a eu Les Bons Génies, et puis surtout il y a eu de choses très importantes dans ma vie qui m'ont beaucoup... propulsé, parce que à chaque fois c'était des affaires d'un an et plus. C'était la première partie d'Hélène Ségara dans tous les Zéniths de France, au Palais des Sports, à l'Olympia. Première partie des Adieux des Vampes, ça c'était formidable, c'était 20 jours à l'Olympia et un an de tournée dans tous les Zéniths de France et de Navarre, et en Belgique et en Suisse. Et puis il y a eu aussi Danny Briand, enfin, il y a eu des choses comme ça. Chose comme ça, formidable, vraiment.
Est-ce qu'il faut une discipline particulière pour mener
C'est un travail de sportif, quand même.
Voilà, c'est un marathon.
Quand je parlais de la clope, c'est parce qu'effectivement, quand je travaillais un peu moins, je m'étais un petit peu donné à la clope. Mais là, je me rends compte que dès lors que le travail reprend, effectivement, c'est je veille d'abord au sommeil, je veille à manger un peu moins, parce que j'aurais tendance à être gourmand, et je veille à... Évidemment, là, j'ai définitivement arrêté la clope pour ça.
On sacrifie beaucoup pour réussir.
On sacrifie beaucoup parce que, bon, il n'y a pas de secret. Si vous voulez réussir, si vous vous mettez minable, si vous ne dormez pas, si vous faites la vie, effectivement, bon, voilà. Mais moi, ce n'est pas mon choix. En plus de ça, je vais vous dire que tous les gens qui me connaissent vous le diront, je suis commandant Cousteau. Je n'aime pas la nuit. C'est marrant, c'est peut-être dû à toutes mes années en discothèque où je termine à 5h du matin. Je déteste la nuit. Je n'aime rien tant que d'avoir un spectacle à 8h, 8h30 et de finir à 10h, d'aller manger et après de me coucher. C'est-à-dire qu'évidemment, je suis au lit à minuit, je lis jusqu'à 1h, mais je me lève à 8 ou 9.
Tu aimes la nuit, mais chez toi?
Chez moi. C'est ça.
Humainement, tu es quelqu'un de...
Ah oui, non, je supporte pas le bruit.
Humainement, tu es quelqu'un de simple, d'accessible.
Ah oui, très. Alors là, franchement, je suis pas du tout mondain.
T'as jamais eu la grosse tête à un moment donné où tu étais début?
Non, ça a été curieux. Mais non, j'ai plutôt fait... ça a plutôt été porte ouverte chez moi, table ouverte. Et après, évidemment, quand il y a eu des années de vache maigre, c'était... J'ai vite compris que bon, la roue avait tourné et pas dans le bon sens à ce moment-là, parce qu'il y a eu quelques années difficiles. Et après, je me suis dit, bon, Mais c'est normal, comme hein. j'ai jamais oublié d'où je venais, mm-hmm. comme j'ai jamais oublié que je gagnais, qu'aujourd'hui, si j'étais professeur, je gagnerais 2500 euros. Tout. Donc, j'ai jamais oublié, parce qu'effectivement, il y a eu des années très, très fastes où on gagnait 10 fois cela. Quoi. Mais aujourd'hui, non.
Les passages à vide, c'est obligatoire chez un artiste, aider au
départ. Pas forcément, mais quand je sais que Johnny a eu des passages à vide, quand je sais que tous les chanteurs ont eu des passages à vide, quand je sais qu'un jour, Nathalie Baye a dit l'essentiel pour un artiste, le reste c'est de la littérature, c'est de bosser, parce que tout le reste, l'art, oui, mais quand on ne bouffe pas, c'est très dur. Et c'est toujours une consécration que de se dire que d'être bien payé. Je veux dire que quand on vous propose des cachets, mais là, bon, c'est vrai qu'il y a plein de choses que j'ai refusées pour ça. Parce que c'était indécent, mais pour autant, l'essentiel pour nous c'est d'être sur scène si on ne fait pas... J'aime énormément la scène. Je pourrais faire 100 galas par an, sans problème, voilà. Parce que je n'aime rien tant que de partager avec les autres. Je n'aime rien tant que de prendre une valise et de partir. Non, j'ai fait des croisières, j'ai fait plein de choses.
Il n'y a jamais eu de bide comme ça, comme disent les jeunes. Il n'y a jamais eu un truc comme ça où le public n'a pas réagi. Non, pas forcément.
Bah, écoutez, pour l'instant, je touche du bois.
On croise les doigts.
Quand on fait rire, c'est vrai qu'on a assez rarement des réactions d'opposition.
Tu fais rire, mais là, ton dernier livre, on peut en parler à la fin de l'émission, on a commencé l'émission avec. C'est un livre, c'est le premier roman, c'est autobiographique.
Oui, c'est un roman autobiographique.
Il y a
forcément une part de fiction, parce que ma mère a dit qu'il y avait des choses inexactes, qu'il y avait des choses un peu romancées, et je lui ai dit oui, parce qu'il est hors de question de... Voilà, sinon j'aurais intitulé cela autobiographie, mais là je vais intituler cela roman parce que
voilà.
Et ça sera le dernier pour la bonne et simple raison que là je passerai vraiment à de la fiction pour les prochains trucs. C'est-à-dire que ça suffit.
L'autobiographie
pas.
De l'année, tu continues à écrire.
Voilà, ça suffit de parler de. Oui, d'abord j'ai pris goût, et puis il y a plusieurs éditeurs qui m'ont. En juin à continuer, en me disant que j'avais une plume alerte.
C'est vrai que les spécialistes ils ont juste oublié que tu as été prof pendant des années.
Oui, mais enfin, il y a des gens qui sont profs qui ne savent pas écrire, puis il y a des gens qui n'ont pas fait d'études et qui sont de brillants
auteurs. C'est vrai.
De brillants auteurs.
C'est un don, vraiment, finalement.
Franchement, je les admire. Moi, c'est difficile d'écrire. C'est l'exercice le plus difficile. Parce que le faire des sketchs, oui, c'est cadré sur 3 minutes, 3:30. Mais écrire un bouquin, c'est se lever la nuit, c'est se relever, c'est casser le travail de la veille en disant « mais c'est quoi cette merde ?» etc.
Revenir à peaufiner à chaque fois.
N'être jamais satisfait.
Tu sais ce que tu vas faire plus tard ? Enfin,
plus tard, oui, je vais mourir. Comme sujet libre. Ah oui, ça s'appellera la diva El Jasmin. Entre la France et la Tunisie, et ça sera l'histoire d'un dernier concert d'un monsieur qui était ténor à l'Opéra de Paris. Voilà. Et d'ailleurs, ça sera une fiction, mais alors sur des éléments réels, enfin de ce que j'ai vécu, je vis en Tunisie, entre la France et la Tunisie.
Ça fait combien de temps que tu es en Tunisie ? Tu es dans quelle ville, au fait ?
Alors, je suis à Mahdia, et moi je suis
Mahdia,
qui est une ville magnifique, parce que c'est une station balnéaire à 40 km de Monastir. Pas très touristique, sauf pour les Sfaxiens qui sont tous à Mahdia l'été, écoutez, elle est préservée, parce qu'au moins elle est à la différence de la Mamet où il y a vraiment foule et tout, mais cet été, enfin ça fait deux étés où Mahdia est très regorge de monde, parce qu'il y a beaucoup de Libyens qui commencent à venir, des Algériens, et puis les Sfaxiens, et puis les gens découvrent Mahdia, mais qui n'est pas connu, parce qu'en fait quand il y avait la pub pour Mahdia sur les panneaux de publicité en France dans le métro, et ils représentaient Mahdia par El Djem, en fait, à cause du Coliseum. Et puis à côté de ça, ils mettaient les plages de Mahdia. Et en fait, quand vous dites Mahdia aux gens, ça ne dit rien. Les gens parlent de Sousse, de Djerba et de Hammamet.
Et Nabeul, parfois.
Sidi Boussaïd, Nabeul aussi, parce que Hammamet touche Nabeul. Et du coup, mais Mahdia est un... Et j'ai dit, écoutez, tant mieux, parce que de toute façon, du coup, on est un petit peu entre nous. Mais j'aime vraiment, vraiment beaucoup cette...
Ouais, et tu rends hommage dans ton prochain livre
à Mahdia, franchement.
C'est génial. Mais
même si j'ai habité Sidi Bou Saïd, j'ai habité à La Marsa pendant 3 ans, et j'ai habité Amilcar, c'est-à-dire le bas de Sidi Bou Saïd pendant 2 ans.
Ah oui, t'es un vrai Tunisien,
finalement. Ah oui, ça se fait 15 ans,
un
15
breton,
ans que je suis
Tunisien. Vous savez, les Bretons... des Tunisiens.
Non, mais les Bretons sont des grands voyageurs. Vous avez des Bretons partout, y compris aux îles Marquises, aux États-Unis, en Inde, partout. Nous sommes tous des grands voyageurs, et moi en particulier. Mais c'est marrant que j'ai
posé la terre appartient à tout le monde.
C'est marrant que j'ai posé mes pieds sur une terre qui m'est inconnue, une langue inconnue, alors que je suis un ancien prof de langue.
Tu parles un peu là-bas?
Non, je parle Shwaya, vraiment Shwaya.
Barcha.
Oui, Barcha.
Amina, c'est une femme qui est tunisienne, mais oui, vécue à Alger, ouais. Après Paris, là, elle est à Stockholm, donc c'est une voyageuse comme toi. Ouais. C'est ton choix, premier qui a parlé, qui a raison, c'est un titre qu'elle a fait, je crois, en 91.
C'était justement pour l'Eurovision.
L'Eurovision, ouais. C'est ta playlist, Patrick Adler. Merci beaucoup. Je rappelle que c'est, enfin, la tournée, elle est sur ton site patrickadler.com. Voilà. Et puis les deux dates, le 2 novembre et le 29.
29 novembre à Toulouse, Saint-Jean. Le 2 novembre, c'est au Canet, à côté de Cannes.
Retenez ces dates. Merci beaucoup.
Merci à vous.
L'émission a été réalisée par Fatou Zola. Je vous retrouve demain. Bonne soirée à l'écoute de BFM avec Vanessa, 22h pour Confidence jusqu'à minuit. Au revoir.
C'est le dernier qui a parlé, qui a raison. Dans ta maison, c'est celle qui m'a donné un nom, qui a raison. De toute façon, fille ou garçon, tous ces dictons sont des leçons. Ne dis pas non, le monde n'est ni mauvais ni bon, tu t'en parles. C'est sans raison. Ouah, 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 ouah.
Trouvez Café des Artistes tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.